Espace consommateur. Espace consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.
Développement de la filière rizicole. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, a remis des contrats d'exploitation d'unités de transformation de riz padi à des opérateurs. Mais avant, il a procédé à la remise de 2500 tonnes de kits agricoles aux producteurs de Giglo dans la région du Kavali. La problématique des incendies dus à des explosions en cascade de bonbonnes de gaz était au centre d'une rencontre initiée par l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Sécurité routière, l'on enregistre une baisse de 20% au niveau des tués et de 12% au niveau des blessés entre 2022 et 2023, selon Étienne Kouakou, le conseiller technique du ministre des Transports. Est-ce une bonne idée de mettre les bananes au frigo pour les conserver plus longtemps? La réponse dans la dernière partie de ce magazine Espace Consommateur sur Radio de la Paix. Bienvenue à toutes et à tous.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Droits et devoirs du consommateur.
L'Office national de la protection civile, l'ONPC, a organisé récemment une rencontre sur le renforcement des dispositions préventives contre les incendies dans les établissements de commercialisation du gaz à son siège à Abidjan-Cocody, lycée technique. En effet, le samedi 30 mars 2024, un incendie déclaré dans un établissement de commercialisation de gaz à la Riviera Bonoumé, dans la commune de Cocody, a occasionné de nombreux dégâts matériels et une grande émotion au sein des populations riveraines. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de la prévention de tels événements qui se font de plus en plus récurrents et qui pourraient, si l'on y prend garde, aboutir à des situations d'urgence difficilement maîtrisables par les services de secours et entraîner des crises sociales importantes. Cette séance de travail vise donc deux principaux objectifs, selon le directeur général de l'ONPC, Amankou Kassi Gabin.
Il y a le gaz au niveau des ménages, il y a le gaz au niveau des industriels. Il reste entendu que le gaz utilisé par les véhicules a été interdit par un décret. Et donc, au niveau des ménages, quelques compatriotes ouvrent des entrepôts, vendent le gaz de ménage, mais cela présente d'énormes risques. Et l'ONPC prévient tous ces risques, y compris le risque d'incendie de gaz, mais aussi intervient en cas de nécessité, à la fois avec les pompiers civils et à la fois avec les pompiers militaires. Donc nous sommes retrouvés pour mettre en place un cadre de travail, pour que nous puissions agir en synergie, pour que nous puissions protéger nos populations. Mais la rencontre visait non seulement à renforcer les mesures de prévention, et en deuxième lieu, édicter des mesures contraignantes pour tous ceux qui demandent à ouvrir un magasin ou tous ceux qui demandent à commercialiser le gaz. Donc des mesures contraignantes pour permettre à tous les demandeurs d'agrément ou d'autorisation d'exercer et de vendre le gaz. Donc nous avions eu des propositions, des recommandations que nous allons remonter à la hiérarchie pour que ces mesures-là puissent être appliquées sur le terrain afin que nous réduisions au strict minimum l'apparition des incendies du fait des gaz dans nos quartiers et dans nos résidences. Mais nous avions demandé de mettre en place un répertoire exhaustif de tous ceux qui commercialisent le gaz. Nous avions demandé que nous puissions faire l'audit de toutes les infrastructures de commercialisation des gaz, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de mesures, beaucoup de recommandations qui ont été faites, que nous allons remonter à la hiérarchie et pour pouvoir circonscrire l'ensemble des incendies du fait des gaz. Lorsque vous voulez vendre du gaz, vous voulez stocker du gaz, il y a des prescriptions, notamment sur les infrastructures qui sont censées abriter ces bouteilles de gaz, ces bonbonnes de gaz. Et donc ces prescriptions-là, nous allons les faire appliquer, nous allons contrôler. Après la sensibilisation faite déjà par le ministère, tel qu'on nous l'a dit, nous allons être obligés de faire de la répression.
L'exercice de commercialisation du gaz domestique obéit à des règles et normes de sécurité incendie, a expliqué le lieutenant-colonel Lavry Olivier Marcel, le directeur de la prévention et du contrôle à l'ONPC, l'Office national de la protection civile.
Déjà, il faut dire qu'un dépôt de gaz, c'est déjà réglementé. Il y a des normes au niveau pour les installations classées pour la protection de l'environnement qui définissent un certain nombre d'éléments pour la création d'un dépôt de gaz qui ne sont pas forcément comme celles d'un établissement recevant du public. Alors, le cas des dépôts de gaz nous emmène à avoir un bâtiment qui est sécurisé, qui est souvent en habitation. Donc, certaines normes au niveau déjà des murs doivent être des murs de coupe-feu au moins 2 heures pour permettre de contenir un incendie à l'intérieur de ce dépôt, ce qui va éviter en fait que ce feu ne se propage très rapidement aux différentes habitations qui sont aux alentours. Et des normes de ventilation aussi de ces dépôts-là. Ces dépôts-là doivent être aérés avec des normes bien définies, précises, qui font que ce dépôt est ventilé en permanence, ce qui va éviter que le gaz ne stagne dans le dépôt et qu'une étincelle ne puisse ou un court-circuit ne puisse provoquer un incendie. Aussi, il y a des normes d'installation du réseau électrique même dans ce dépôt. Les circuits électriques qui sont utilisés dans ce dépôt, ainsi que les lampes, les lumières et autres, ont des certaines normes à avoir. Alors vous voyez qu'il y a un ensemble de normes de sécurité incendie qui doivent être obligatoires dans ces dépôts-là. Et pour ouvrir normalement un dépôt, il faut que ces dépôts-là soient détenteurs d'un certificat de sécurité incendie après une visite des services compétents, de sorte à permettre à ces dépôts-là d'avoir des normes de sécurité qui ne peuvent laisser aucun risque pour les voisins. Je pense qu'au regard des différents sinistres que nous voyons, ces dépôts de gaz devraient prendre la tâche des services de secours, des services de prévention, soit du groupement des sapeurs-pompiers militaires ou de l'Office national de protection civile, à l'effet de se mettre aux normes avant même l'ouverture de ces dépôts-là. Cela permettra de sauver en fait, du voisinage en fait, de ces dépôts-là. Des visites sont obligatoires dans ces dépôts.
Le ministère du Commerce et de l'Industrie a en charge, quant à lui, le contrôle et la surveillance des prix de vente du gaz sur le marché, a précisé Aline Oba, épouse d'Anon.
Je suis directrice de l'insertion et de la promotion des activités commerciales au ministère du Commerce et de l'Industrie. Alors, je peux dire que cette situation que nous constatons est déplorable, mais le ministère du Commerce a déjà anticipé. Nous, en dehors de l'incendie concernant le gaz, nous avons anticipé en organisant les états généraux des marchés. Parce que depuis 1985, nous avons des marchés qui brûlent. Donc nous, ministère du Commerce, on a organisé les états généraux. Aujourd'hui, les recommandations de ces états généraux, nous sommes en train de mettre ça en application pour aider la population à régler ces questions-là, des incendies que nous connaissons. Donc nous sommes en phase avec l'OMPC, et eux, ils parlent du gaz, mais nous, ministère du Commerce, nous avons la réglementation, les autorisations sont données par le ministère de l'Énergie et des Mines. Nous veillons à ce que les têtes soient respectées, parce que le gaz est un produit réglementé par l'État de Côte d'Ivoire, dont le ministère du Commerce fait des missions sur le terrain pour veiller à ce que les prix qui ont été décidés par l'État de Côte d'Ivoire soient véritablement respectés.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Info consommateur.
Développement de la filière rizicole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, vient de remettre près de 2500 tonnes de semences et d'intrants aux producteurs de riz de Guiglou dans la région du Cavali. Cette remise de kits agricoles aux producteurs s'inscrit dans le cadre du lancement de la distribution officielle des kits agricoles dans le district autonome des montagnes pour aider à accroître la production vivrière, nous dit Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkoui.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, de prime abord, s'est entretenu avec les usiniers de transformation de riz du quartier Yaoundé sur l'approvisionnement et la performance de leur unité de transformation. Le gérant Moussa Bamba précise.
En termes de production, nous allons jusqu'à 400 à 600 tonnes par an. La difficulté que nous avons, c'est l'accès au paddy. Les producteurs qui sont dans la zone font qu'un seul cycle, donc ils n'envoient pas assez de paddy. Badi.
Direction sur le périmètre du fleuve Nzo, des riziculteurs au travail qui reçoivent séance tenante des semences et des intrants des mains du ministre de l'Agriculture, Kobinan Kwasi Adjoumani. Le président de la coopérative des producteurs de riz de Guiglo, Vasiki Doukouré, à la réception.
Bon, avec ces intrants, je pense que nous serons mis de produire de 5 tonnes à 6 tonnes à 7 tonnes.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobinan Kwasi Adjoumani, justifie cette action.
Si cet espace est bien utilisé, on peut même aller jusqu'à 1000 hectares. Vous savez, quand le président de la République nous demande d'être sur le terrain pour accompagner les producteurs, c'est la réalité. L'objectif ici, c'est de les accompagner, de leur donner des kits et de suivre le processus de production, c'est-à-dire la distribution, la production et puis la transformation suivie après de la commercialisation.
À noter que ce geste marque le lancement de la distribution officielle des kits agricoles dans le district autonome des montagnes. Stéphane Adams, des Guiglo, Radio de la Paix.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Kobinan Kwasi Adjoumani, a remis récemment à Abidjan des contrats de mise en exploitation de 10 unités de transformation de riz padi de capacité de 5 tonnes par heure. Dans un contexte mondial marqué, selon le ministre d'État, par une hausse importante du prix du riz sur les marchés internationaux et par une réduction de la production mondiale, la Côte d'Ivoire, dans une démarche proactive, a entamé des réformes en vue de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. À l'en croire, c'est pour atteindre les objectifs de production de riz blanchi en Côte d'Ivoire que 10 opérateurs économiques ont manifesté leur intérêt pour prendre une part active au développement de la filière riz. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique visant à renforcer le tissu industriel à travers notamment l'acquisition de 30 unités de transformation de riz padi de capacité de 5 tonnes par heure, soit une capacité annuelle de 750 000 tonnes. Sécurité routière. Avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 adoptée en juillet 2021 par le gouvernement ivoirien en vue de lutter contre les accidents de la circulation routière, l'on note une baisse des indicateurs d'accidentalité entre 2022 et 2023 en Côte d'Ivoire, à en croire le conseiller technique chargé de la sécurité routière au ministère des Transports, Étienne Kouakou. C'était au cours de la tribune d'échange « Tout savoir sur » initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Nous l'écoutons.
Malgré les selon les statistiques officielles fournies par l'Office de sécurité routière, environ 90% des accidents de la circulation sont dus à l'homme. Les piétons et les usagers des deux et trois roues représentent 70% des victimes et plus de 60% des tués. À l'analyse, l'incivisme sur nos routes apparaît comme la principale cause de ces accidents. Cet incivisme se caractérise par le non-respect de la réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, notamment les excès de vitesse, le non-port du casque de sécurité, le non-port de la ceinture de sécurité, l'usage du téléphone en situation de conduite, le non-respect des règles de priorité. Outre les aspects sociaux, les accidents de la route coûtent à notre pays environ 3% de son PIB. Face à cette situation, le gouvernement a adopté le 7 juillet 2021 la stratégie nationale de sécurité routière en vue de lutter efficacement contre les accidents de la circulation. Cette stratégie repose sur 5 piliers principaux. La gouvernance de la sécurité routière, la sécurité des routes, la sécurité des véhicules, la sécurité des usagers et les soins post-accident. Elle vise la réduction de 25% des victimes des accidents de la circulation en 2025 par rapport aux données de 2019, année de référence. Les résultats des efforts entrepris par le gouvernement donnent des raisons d'espérer l'atteinte de cet objectif. En effet, nous constatons une baisse des indicateurs d'accidentalité en 2022 et 2023. Nous sommes donc passés de 2022 à 2023 à une réduction des tués sur nos routes de 20% et au niveau des blessés une baisse de 12%. Et par rapport à l'année de référence 2019 dont je parlais plus haut, c'est une baisse de 23% au niveau des tués et de 14% au niveau des blessés. Il faut relever que ces résultats relativement satisfaisants découlent des actions mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale. Il s'agit notamment du déploiement de la vidéo-verbalisation, la mise en œuvre du permis à points, les activités de la commission de retrait et de suspension du permis de conduire et de l'instauration des semaines nationales de sécurité routière. Ces réformes majeures permettent d'observer dans la circulation une légère amélioration du comportement des usagers de la route. Réduction de la vitesse moyenne des automobilistes qui est passée de 80 km/h en agglomération à Abidjan à 59 km/h. Le port de la ceinture de sécurité qui est devenu presque une nature maintenant pour tous les conducteurs. Le respect des feux tricolores et le port du casque pour les conducteurs des engins de deux roues. Ces actions seront renforcées dans l'optique de l'atteinte de l'objectif qui est de réduire le nombre des victimes de 25% en 2025.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Bon à savoir.
Est-ce une bonne idée de mettre les bananes au frigo pour les conserver plus longtemps? Lorsque l'on laisse ces bananes à l'air libre, elles peuvent parfois attirer des mouches, brunir ou mûrir vite. Les laisser au frigo est-il une bonne solution à ce problème? Une récente étude nous éclaire sur la question. Les bananes sont des fruits délicats. Vous avez déjà sûrement fait l'expérience. Vous achetez des bananes et elles ont changé rapidement de couleur. Les bananes sont très sensibles à leur environnement extérieur. Une étude publiée par un journal américain s'est penchée sur les avantages et désavantages de garder ces bananes au réfrigérateur. A priori, les bananes étant des fruits tropicaux, elles préfèrent la chaleur. Le frigo serait donc une mauvaise idée. Mais l'étude a révélé un résultat nuancé. Le degré de maturité des bananes est un facteur important. En faisant leurs recherches, les scientifiques de l'étude ont vite compris que le froid influençait les bananes considérablement. Cela peut accélérer le processus de maturation et entraîner des dommages à leur peau, rendant les fruits plus sombres et plus mous. Pour les bananes déjà mûres, il n'est donc pas recommandé de les mettre au frigo. En vérité, il faudrait même les manger rapidement pour éviter le gaspillage alimentaire. Elles vont vite devenir brunes. Mais pour le cas des bananes pas assez mûres, si vous voulez ralentir le processus de maturation des bananes vertes, le réfrigérateur est une option. Cependant, étant plus sensible au froid que les bananes mûres, elles risquent de noircir un peu. Pour minimiser ce risque, enveloppez-les dans un sac en papier avant de les réfrigérer. C'est donc à vous de déterminer la meilleure solution selon votre type de banane et vos préférences en matière de texture. Voilà, fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Espace Consommateur sur Radio de la Paix.
Espace consommateur. Espace consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.